Gloire à Dieu.
Amen.
Bonjour à ceux et celles que je n'ai pas eu le temps de saluer. Bisous fraternels. Voilà. Nous allons lire ensemble dans le livre de la Genèse, chapitre 32, et à partir du verset 24. Genèse 32. À partir de 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le maîtriser, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit : Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Et un tout petit peu plus loin, au verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme est sauvée. Et ce matin, ensemble, on va voir les différents face à face que Jacob a pu rencontrer dans sa vie. Ça va être un peu le titre aujourd'hui, les face à face de Jacob. Il sera face à face avec lui-même, il sera face à face avec son passé, il sera face à face avec Dieu, c'est ce qu'on vient de lire, et il sera aussi face à face avec son appel. Alors là, nous sommes au chapitre 32, on va faire comme dans les films, dans les séries télévisées, on va faire une petite synthèse pour bien comprendre le chapitre 32, pour comprendre qui est Jacob. Donc on va remonter au chapitre 25 de ce même livre. Et il nous est dit que Jacob est le fils d'Isaac et le petit-fils d'Abraham. Verset 25 du chapitre 25. Il naît avec un jumeau. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. C'est important les noms, mine de rien. Ça désigne toute la personnalité, ça désigne surtout dans l'Ancien Testament, surtout dans la Bible, y compris aussi au Nouveau Testament, mais l'importance du nom. Et parce qu'il était là à tenir le talon de son frère, un peu comme s'il voulait passer devant lui en disant « Pousse-toi, c'est moi qui viendrai le premier !» Non, c'est quand même Ésaü qui est passé le premier. Il va hériter du nom de Jacob, le talonneur, le trompeur, l'usurpateur. Ça désigne tout, hein. C'est clair. Jacob, oh là là, si vous saviez comme il est trompeur cet homme-là. C'est sûrement ce que disaient les voisins. Et pendant un peu plus de 40 ans, la Bible nous montre qu'il passe son temps à tantôt à voler le droit d'aînesse à son frère, en échange d'un simple plat de lentilles. Tantôt, il va prendre les bénédictions de son frère. Et un peu plus de 40 ans, quoi. Je dis 40 ans parce que, dans le chapitre 26, il nous est dit qu'Ésaü se maria à 40 ans. Comme ils sont jumeaux, je suis très bon en mathématiques et très logique, ils ont le même âge. Donc c'est pour ça que je le situe à peu près aux environs de 40 ans, une bonne quarantaine d'années, quoi. Et pendant 40 ans, il va tromper tout le monde, il va voir son intérêt personnel. Il croit en Dieu, parce que son père croit en Dieu, parce que son grand-père croit en Dieu. Mais lui, quand il s'adresse à Dieu, c'est « Dieu, tu fais ça pour moi, et puis peut-être que moi je ferai quelque chose pour toi ». Tu me bénis dans ce sens-là. Tu vois, je vais peut-être faire un petit peu quelque chose de malhonnête, mais tu fermes les yeux, tu bénis, mais je te redonnerai ça plus tard. C'était un peu sa mentalité, hein. J'extrapole à peine. Toujours est-il qu'au bout de 40 ans, il finit par faire ce qui a déplu à son frère, c'est-à-dire qu'il lui a volé toute la bénédiction. Il trompe son père, il trompe son frère, et il vole la bénédiction du fils aîné. Et là, ça va plus. Ésaü, il pète un câble, là. Ah, mon frère, ça va. Je vais lui faire la peau à celui-là, ça... J'en ai marre de mon frère. Si je le vois, si je l'attrape, je lui tords le cou. Mais c'est justifié, sa colère, hein. Du coup, on voit Jacob, sur les conseils de sa mère, qui fuit. Il part, et sa mère lui dit, écoute, tu pars, hein, le temps que ton frère se calme, moi je tiens à toi, j'ai pas envie de te perdre. Donc tu vas voir mon frère, ton oncle Laban, là-bas, et tu t'exiles un petit peu là-bas. Tu te mets au vert, et puis pendant ce temps-là, ton frère qui en veut à ta peau, il va sûrement se calmer, t'inquiète pas. Et donc on voit au chapitre 28, il fuit. Il laisse tout derrière lui, et il fuit. Et là, il y a un événement exceptionnel dans sa vie. Il est évidemment fatigué au bout d'une journée, il s'endort, et il fait un songe. Une échelle qui est appuyée quelque part en haut du ciel et qui repose sur la terre, avec des anges qui montent et qui descendent. Donc ça, on trouve ça au chapitre 28 à partir du verset 12. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et là, Dieu lui parle. « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. » Il ne dit pas « Je suis ton Dieu. » Ah, ça n'empêche qu'il y a une révélation là. C'est comme si Dieu était en train de dire, tu vois, je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu de ton grand-père. Mais aujourd'hui, dans ce songe, j'ai envie de devenir ton Dieu. Toi, tu es en train de fuir, mais je te bénirai. Sache que j'ai un plan différent pour toi. Je te donnerai ce lieu à ta postérité, car ta postérité sera grande, et je te ramènerai dans ce pays. Jacob, il n'a qu'une envie, c'est partir, à l'opposé. Et pourtant, Dieu lui est en train de lui faire une promesse. Je suis ton Dieu. Je t'aime tel que tu es. Oui, tu es un trompeur. Oui, tu es quelqu'un qui manipule tout le monde. Mais je t'aime tel que tu es. Et je veux aussi devenir ton Dieu. Alors je te ramènerai. Tu pars, ok. Ça va être ma volonté de tolérance. Mais sache que si je veux que tu reviennes, mon plan pour toi, c'est que tu aies une vie parfaite. Mon plan pour toi, c'est que tu sois heureux. Et tu reviendras dans ce pays. Ça, c'est ma volonté. Et là, il y a toujours Jacob qui dit, « Ok, Seigneur, si tu permets que mon voyage se passe bien, si tu permets qu'effectivement ma postérité soit grande, si tu permets qu'effectivement je revienne, alors là, oui, tu seras mon Dieu. » Ah, cette rencontre. C'est un peu comme si on rencontrait Jésus d'un seul coup, qui vient nous dire, « Mais je t'aime. Je t'aime tel que tu es. Malgré tes gros défauts, je t'aime. Et je vais transformer ta vie, je te veux du bonheur. » Je suis sûr que Jacob a été transformé à ce moment-là. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui a été fortement semé dans le corps de Jacob. D'ailleurs, ce n'est pas anodin. Avant de reprendre son chemin le matin, il fait un autel, il dresse son caillou en disant « Ce lieu s'appelle Bethel, la maison de Dieu. » Il a conscience que là où il était, Dieu était à ses côtés. Et il va être transformé. Il continue son chemin, il arrive chez son oncle, et il pleure. Alors je ne sais pas s'il pleure de joie parce que ça y est, il a fini son voyage. Je ne sais pas s'il pleure de joie parce qu'il a d'un seul coup rencontré celle qui allait devenir sa femme. En tout cas, c'est la première fois pour qu'un homme qui était manipulateur, trompeur, sans sentiment en général, c'est la première fois qu'on le voit pleurer. Il y a quand même quelque chose d'humain qui a été mis en lui. Il y a quelque chose d'amour qui a été semé dans cette rencontre avec Bethel. Oh, le changement aurait été de courte durée. Et les 20 ans qui suivent nous montrent toujours un Jacob qui, un coup c'est son beau-père qui le manipule, un coup c'est lui qui manipule son beau-père. Le beau-père était à la fois l'employeur, ça doit être facile à vivre dans la famille, hein. Mais c'est comme ça, on s'aperçoit que pendant les 20 ans qui suivent, eh ben, Jacob, le trompeur, il est toujours là, il manipule toujours, il est toujours... Et puis il est toujours dans ses... Oh Dieu, tu vois mon troupeau, là je vais peut-être un petit peu en faire des rayures, là vous détacher, mais si tu bénis, hein, je te suis. Et ça a été comme ça pendant encore les 20 ans qui suivent. Et on arrive à notre chapitre 32. Ou juste avant au chapitre 31, Dieu se manifeste à Jacob en lui disant « Bon, ben il est temps que tu retournes dans ton pays maintenant. Je te l'ai promis il y a 20 ans en arrière. Maintenant, ben, retourne auprès de ton père. Retourne auprès là où tu es né. » Chapitre 31, verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Et comme Jacob, il en a marre de son beau-père, comme il en a un petit peu assez de toutes les magouilles qu'il peut y avoir entre lui et son beau-père, une nouvelle fois, il fuit. Il aurait pu dire à Laban, écoute Laban, Dieu m'a parlé, je vais retourner dans mon pays avec ma femme, mes enfants, mon troupeau. Non, non. Il part. Hop, il fuit. Évidemment, ça met Laban, le beau-père, en colère. Qui le poursuit, qui finit par l'attraper. Et là, il y a quand même la grâce de Dieu qui est là. Ils se réconcilient, ils font une alliance entre eux. Ils dressent un autel, ils partagent le repas. Et chacun repart en paix dans sa propre direction. Voilà où on en est. Mais Jacob, il est content. Ah, ça y est, une fois de plus, m'en suis sorti avec mon beau-père. Ouf. Et puis, il fait son chemin vers son pays natal. Alors, je ne sais pas pour vous, mais nous, on a longtemps quitté la région, notre région, notre natale. Et à chaque fois qu'on venait voir nos parents, nos mères respectives et nos pères, nos parents, il y a forcément cette nostalgie qui vient. Il y a forcément tout un tas de souvenirs qui revient. Quand on commence à arriver en Loire-Atlantique, ouais, je me souviens, ça c'était beau. Et lui, il fait ça. Et progressivement, il revient vers son pays de naissance et les choses reviennent. Ah, oui, je vais retrouver mon frère au fait. Oula. C'est peut-être moins drôle ça. Parce qu'il y a 20 ans en arrière, je suis parti en courant devant lui quand même. Et là, il se retrouve face à face avec son passé. Jacob, je pense qu'il l'avait un peu oublié son passé. Il l'avait mis sous la couette, là, puis sous l'oreiller, et puis bouf, on s'assoit dessus, on l'oublie. Mais non, là, au fur et à mesure qu'il s'approche du pays de sa naissance, ben, de plus en plus, le passé, il revient. À tel point qu'il va dire à ses serviteurs, bon, ben, vous allez devant, et puis vous dites à son seigneur Ésaü que Jacob arrive pour trouver grâce. Les serviteurs s'exécutent, et là, ils reviennent et ils disent à Jacob, on a bien transmis le message. Ésaü, il est derrière, avec 400 hommes. Oups! Oula, ça c'est le passé qui revient là. Alors c'est sûr que la Bible nous dit, dans Ésaïe 43, 18, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » C'est vrai. Parce que si on passe notre temps à regarder notre passé, on n'avance plus. De Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et il est aussi marqué dans la Bible que Dieu prend notre passé, il le met au plus profond des fonds de mer pour ne plus s'en souvenir. Ça, c'est quand le passé, il a été réglé. Sauf que quand le passé n'est pas réglé, c'est un boomerang. Il nous revient en pleine face. Et c'est ce qui se passe avec Jacob. Là, dans sa démarche, il est face à face avec son passé. Il est face à face avec son nom, le trompeur, l'usurpateur, le manipulateur, tout ce que vous voulez. Et là, il a peur. Au verset 7 du chapitre 32, il nous est dit que Jacob est effrayé. Alors nous, on connaît la suite, évidemment, mais lui, non. Et quand il voit son frère qui arrive avec 400 hommes, à mon avis, c'est pas pour lui faire un baiser d'amour, ni un baiser fraternel. C'est ce qu'il pense dans sa tête, en tout cas. Parce que son passé lui revient en pleine face. Alors il commence à penser dans sa tête. Bon, bah, puisqu'il vient vers moi avec 400 hommes, je divise tout le monde en deux, je fais un premier groupe, et puis plus loin un deuxième groupe. Comme ça, au moins, si Ésaü il attaque le premier et le bat, ben moi qui suis dans le deuxième groupe, j'aurai au moins la vie sauve. C'est lui. On ne changera pas, humainement en tout cas. Mais ça, c'est Jacob. Il se met des stratégies pour gagner. Et c'est ce qu'il fait. Donc, ben voilà, il fait deux camps. Et puis... Mais il est quand même content. On sent qu'il est content. Il y a quelque part quand même quelque chose qui a été changé. Parce que là, il a entendu la voix de Dieu qui lui dit « retourne ». Il a obéi. Et il est tellement content qu'il rencontre des anges. Il s'aperçoit qu'il y a des anges qui l'accompagnent sur son chemin. Il dressera pas d'autel. Mais il appellera ce nom Manaïm, je crois. Il fera pas d'autel. Peut-être que parce que là, il commence à se retrouver face à face avec lui-même. Je ne sais pas comment il a fait, mais on va dire qu'avec les moyens techniques et modernes que nous aurions aujourd'hui, il a réussi à lire Matthieu. Matthieu. Matthieu qui nous dit que lorsque tu fais ton offrande, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Là, ça travaille. Là, ça commence à réfléchir. Et Jacob, il est seul là avec lui-même. Il se dit, ah oui, je ne vais peut-être pas faire une offrande là. Je rencontre des gens, je suis d'accord, mais je ne vais pas faire mon offrande. Je vais tout faire maintenant pour aller me réconcilier avec mon frère. Donc son passé, ça y est, il l'a pris en pleine face. Il sait qu'il a des choses à faire. Et maintenant, il va essayer d'aller vers son frère avec une notion de dire, il faut que je me réconcilie. Et ça, c'est important. Il est un peu comme ce fils prodigue dans Luc chapitre 5, verset 17. C'est cet homme qui a tout pris l'héritage de son père et qui a tout dilapidé. À un moment donné, lui aussi, il se retrouve seul dans sa vie. Parce que ben, il a tout dilapidé, parce qu'il n'y a plus de travail, parce que la seule solution qu'il a, c'est de nourrir les porcs. Il ne peut même pas prendre cette nourriture pour lui-même. Et il rentre en lui-même, étant rentré en lui-même, il dit... Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. J'irai chez mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Et c'est ce qui se passe avec Jacob. Il est dans ce face-à-face avec lui-même là. Il commence à se dire, ah, ouais, bon, je vais aller voir mon frère. Il y a cette notion de pardon qui est importante. Je vais rentrer sur moi-même et je lui demander pardon. Le psaume 139, 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et David, il sait ce que c'est, hein, être loin de la face de Dieu. Quand il s'exprime là, c'est par expérience hein, qu'il parle. Parce que nous connaissons tous la vie de David, il y a un temps, il a quand même fait quelques erreurs. Et il pouvait implorer Dieu en disant dans le psaume 51, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Lui, il était au plus bas de la détresse à ce moment-là, hein, quand il a écrit ça. Et il avait besoin de supplier Dieu de dire « Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Ça, c'est important. Et donc, Jacob se retrouve seul avec lui, en face à face. Il y a plein de situations dans nos vies où on arrive à se retrouver seul, face à face avec nous-mêmes, face à face avec notre passé. Ça peut être quand on approche d'un décès de nos proches qui nous sont chers, quelqu'un disparaît et ça fait un vide, on se retrouve seul. Ça peut être la maladie, face dans un lit d'hôpital. Ça peut être une séparation de la vie normale, un couple qui se sépare, on se retrouve seul, perte de travail, etc. Et ces moments, ce sont des moments que Dieu permet afin que on fasse le point sur nous-mêmes. Oh Dieu, sonde-moi. Mais qu'est-ce que c'est important de pouvoir se trouver seul. On l'a tous connu à un moment donné. Alors ça fait mal, hein. Ça fait très mal, parce que quand on n'est pas chrétien, se retrouver seul à seul, on n'a aucune espérance. Quand on n'a pas Dieu dans notre vie, on n'a aucune espérance. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment sera demain? Avec Dieu, c'est différent. Parce que c'est dans ce tête-à-tête avec soi-même où on arrive à régler notre passé, quel qu'il soit. Qu'on arrive à entendre la voix de Dieu et qu'on arrive à discerner les choses. J'ai connu ce moment de solitude. C'était juste avant ma conversion. Je connaissais l'Église déjà depuis quelques années. J'avais l'habitude d'être seul parce que je vivais déjà seul, donc j'étais pas forcément chez mes parents. Et là, mes parents sont partis, je sais plus pourquoi, ils partaient 15 jours. Donc, fallait garder le chien. Et je suis revenu dans la maison des parents pour garder le chien. Et il s'est avéré que le chien est tombé malade parce qu'il n'était pas jeune. Et donc, j'ai piqué le chien. Pas le choix. Je suis allé voir le vétérinaire et j'ai piqué le chien. Et du coup, je me suis retrouvé dans une grande maison de 11 pièces, parce qu'on est une famille nombreuse, tout seul. Et là, j'ai vraiment senti ce moment de solitude, ce tête-à-tête avec moi-même. Je commençais à suivre les réunions d'église depuis un an, deux ans. Et là, en sortant de mon tête-à-tête avec moi-même, je suis rentré dans ce tête-à-tête avec Dieu. Comme l'a fait Jacob, et on va voir tout à l'heure. Et là, j'ai dit à Dieu, mais Dieu, tu vois, je fréquente l'Église, je vois plein de miracles, je vois plein de choses. Mais qu'est-ce que toi, t'as fait pour moi? Qu'est-ce que t'as bien pu faire pour moi? J'aimerais bien être béni, moi aussi. Et dans ce tête-à-tête avec moi-même, il y a eu ce tête-à-tête avec Dieu qui m'a... Au plus profond de mes entrailles, il y a cette phrase qui m'est dit, mais souviens-toi du 21 octobre. J'aurais pu mourir à 20 ans, le 21 octobre, d'un accident de voiture. J'ai simplement loupé un virage en montagne et je me suis retrouvé 35 mètres plus bas. Et là, j'ai dit, ce tête-à-tête avec Dieu, ça fait du bien. Ah ouais, Dieu. J'ai pris mon baptême quelques semaines après. Mais on a besoin de ce tête-à-tête avec Dieu. Parce qu'il faut apprendre à passer le face-à-face de notre passé. Il faut apprendre à passer au-delà de notre face-à-face avec soi-même. Et justement pour rentrer dans ce face-à-face, dans ce tête-à-tête avec Dieu. Et c'est ce qui se passe là avec Jacob. Oh, il n'est pas le premier à avoir fait un face-à-face avec Dieu. Moïse l'a fait, bien d'autres. Hein. Moïse pouvait dire, l'Éternel, dans Exode 33, l'Éternel parla à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Exode 33, 11. Dans le livre des Juges, il y a Gédéon aussi, au chapitre 6, verset 22. Gédéon, voyant que c'était un ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » C'est vrai que ça peut faire peur. Nul ne peut vivre en ayant vu Dieu, c'est vrai. Mais comme je l'ai lu tout à l'heure, Jacob a pu dire « Je nomme ce lieu Péniel, car j'ai vu Dieu face à face, et mon âme est sauvée. » Mais c'est le but, en fait. Il y a eu le Bethel, où, parce qu'on a cette première rencontre avec Jésus, notre âme est sauvée. Mais après, il faut peut-être aller plus loin, pour que notre âme ne soit pas simplement sauvée, mais que, au moins là-haut, nous ayons les récompenses par rapport à ce que nous aurions fait, selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu qui s'accomplit en nous. Et ça change tout. Et là, nous voyons Jacob qui, seul, il a fait passer tout le monde et lui, il reste derrière. Il est seul et il y a un homme qui lutte avec lui. Jacob était quand même quelqu'un de costaud. Parce que le combat a visiblement duré toute la nuit. Et l'homme, l'ange de l'Éternel, ou peut-être Dieu lui-même, s'est battu toute la nuit. Et il nous est dit que l'homme, voyant qu'il ne maîtrisait pas Jacob, lui dit « Laisse-moi aller, parce que le jour se lève, l'aube arrive, alors laisse-moi aller. » Et là, Jacob, « Ah non, 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 personne ne sort du lieu, là. Personne, tout le monde reste là, parce que je veux gagner, parce que je veux une bénédiction. » Il insiste, il persévère dans son combat. Il ne s'arrête pas là, il persévère. Alors, comme Jacob, homme fort, maîtrise la situation, l'homme de Dieu qui combat avec lui lui brise la hanche. Un symbole. Une marque de quelque chose. Un signe de Dieu sur sa vie. Je reviens sur mon accident. J'ai une énorme cicatrice sur le bras gauche qui doit faire 25 cm. Et je me plais à dire que c'est la marque de Dieu sur ma vie. Parce qu'il a posé sa main sur moi. Et là, Dieu a posé la main sur Jacob en lui brisant la hanche. Ça laisse une trace. Surtout qu'à l'époque, les prothèses, ça n'existait pas. Donc, il a continué sa vie avec une hanche déboîtée. C'est plus difficile de marcher. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est fait. Là, c'est son face-à-face avec Dieu. Les deux sont à cœur. On est dans un combat donnant gagnant-gagnant. Jacob n'a pas perdu, l'homme de Dieu n'a pas perdu, mais tous les deux ont gagné quelque chose. Tous les deux ont gagné une vie, une âme. Tous les deux ont gagné quelque chose de plus. Dieu a gagné une âme, Jacob a gagné son destin. Et lorsqu'on est dans ce face-à-face avec Dieu, il faut aiguiser nos oreilles, parce que là, Dieu nous parle. Moïse s'est retrouvé face à face avec Dieu devant le buisson ardent. Et là, il s'est retrouvé devant son appel, qui a été de faire sortir Israël du pays d'Égypte. Gédéon, lorsqu'il s'est retrouvé face à l'ange éternel, il s'est retrouvé face à son appel. Protéger le peuple d'Israël de Madian. Marie, lorsqu'elle se trouve face à face avec l'ange de l'Éternel, elle se trouve face à son appel, devenir la mère de Jésus. Tout petit peu avant, Zacharie, lorsqu'il est dans ses fonctions pour officier dans le tabernacle, dans ses fonctions de serviteur, il se retrouve seul à seul avec Dieu. Et Dieu lui apprend qu'il va bientôt être papa. Et son appel, ça va être la charge d'être le père de Jean-Baptiste, celui qui était avant Jésus. Est-ce que tout ce qu'on en est lorsque nous sommes dans ce face-à-face avec Dieu, est-ce qu'on arrive à entendre l'appel que Dieu met sur notre vie? Est-ce qu'on arrive à discerner l'appel qui nous est donné? Et là, on se trouve face à face avec notre appel. Je l'accepte ou je le refuse. Jacob, quel est ton nom? Il le sait. Quel est ton nom? Je m'appelle Jacob. Il le dit presque avec fierté. Je m'appelle Jacob. Non. À partir de maintenant, tu t'appelles Israël. Mais ça change tout. Israël, c'est pas simplement le père des 12 enfants qui vont devenir les 12 tribus. C'est un pays. C'est un pays qui est quand même le peuple de Dieu. C'est un pays qui, aujourd'hui actuel, a beaucoup de tribulations, a beaucoup de persécutions. Le ministère, l'appel de Jacob, c'était de devenir Israël. Celui qui s'est battu avec Dieu et avec les hommes. Ce n'est pas marqué contre Dieu, c'est marqué avec Dieu. C'est-à-dire que pendant tout le combat qu'il y a eu, ce n'était pas un combat de Jacob contre Dieu. C'est Dieu et Jacob qui se sont battus ensemble pour résoudre le passé de Jacob. Et ça change tout là aussi. Celui qui s'est battu avec Dieu. Donc là, il se trouve face à son appel, face à ce que Dieu a son destin. Et ça change. Il aura pu dire, je nomme ce lieu Péniel parce que j'ai vu Dieu face à face et mon âme est sauvée. Ça y est. Jacob est transformé. Ça y est, Jacob devient Israël, même si la Bible continue de l'appeler encore Jacob, mais il devient Israël. Alors qu'est-ce que ça va changer dans sa vie? Qu'est-ce que ça peut bien changer? Oh, plein de choses. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, il a une brisure physique. Dieu l'a brisé. Mais il ne faut pas avoir peur. Lorsque Dieu nous brise, lorsque Dieu nous châtie, faut pas avoir peur. Le Proverbe 27, verset 6, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Je vais même oser quelque chose d'un peu plus loin. Matthieu 18, verset 8, si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds et deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. C'est fort ça. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Comme ça, tu pourras au moins rentrer dans la vie éternelle. Il vaut mieux rentrer dans la vie éternelle manchot qu'avec ses deux mains et aller dans le feu éternel. C'est très puissant. Et c'est ce qui se passe avec la hanche de Jacob. Il est sauvé avec une hanche en moins, mais il est sauvé. Et ça, c'est énorme. Et là, on voit le changement maintenant. À partir du chapitre 33, on voit le changement. Ésaü approche avec ses 400 hommes. Et là, on voit dans ce chapitre-là que Jacob remodifie tout son petit groupe. Il met les enfants d'abord, les femmes, le menu troupeau, le gros troupeau, le gros bétail, etc. Il commence à avoir de la bienveillance. Tiens. Il s'aperçoit que les petits-enfants marchent moins vite que les adultes, donc il les met devant, comme ça tout le monde marche au pas des enfants et se fatigue moins. Il répartit différemment son groupe. Alors hier, il était celui qui était derrière. Il a envoyé ses groupes, toute sa famille, tout son troupeau au devant, et il reste seul. Et aujourd'hui, après cette rencontre à Dieu, la Bible nous dit qu'il va devant. Il marche en tête, et il est le premier, du coup, à rencontrer son frère. Et il se prosterna cette fois. Et là, on s'aperçoit qu'il y a le pardon qui arrive. Il voit son frère, les deux courent l'un vers l'autre, et ils s'embrassent, et ils pleurent ensemble. Le pardon, qu'est-ce que c'est important. Il y a 3 mois, nous étions à l'enterrement d'un de nos cousins, et le prêtre diacre qui officiait a clôturé la cérémonie par le Notre Père. Et avant de réciter le Notre Père, il a mis toute l'assemblée en garde en disant « À un moment donné, dans le Notre Père, il y a « Père, pardonne nos offenses, comme nous avons nous aussi pardonné. » Et il a insisté sur le pardon, un jour d'enterrement. Ben, il y avait un bon silence dans l'église, parce qu'on a tous... Quelque part, on a tous besoin d'avoir ce pardon avec nos frères, avec tous ceux qu'on a peut-être maltraités à un moment donné. Et là, entre Ésaü et Jacob, il y a ce pardon qui se fait. Jacob marche différemment. Sa façon de marcher est différente. Avant, il marchait un pas en avant, 2 pas en arrière, 1 pas à droite, 1 pas à gauche, en fonction de ses humeurs, en fonction des bénéfices qu'il pouvait retirer de sa marche. Et là, avec la hanche fracturée, à mon avis, il est obligé d'avoir un bâton. Et si ce bâton, c'était Dieu lui-même sur lequel il s'appuyait. On le voit, hein, il marche droit dans le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Sa vision a changé aussi. Parce que il voyait son frère comme un ennemi. Et dans le chapitre 33, verset 10, à la fin du verset 10, « J'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. » Il ne voit plus son frère avec ses propres yeux. Il voit son frère comme s'il regardait la face de Dieu, comme s'il voyait à travers Dieu. Et ça change. Ma vision humaine n'est pas la vision de Dieu. En regardant comme la face de Dieu, je commence à regarder avec compassion, avec amour. Et je fais aussi preuve d'humilité. Ça change tout. Et à la fin du chapitre 33, tout le dernier verset, verset 20, il est dans un endroit, et il nous est dit que là, il éleva un autel qu'il appela El Eloi Israël. Ce qui veut dire Dieu, le Dieu d'Israël. Il s'approprie maintenant que Dieu est son propre Dieu. Au début de notre lecture, c'était le Dieu de mon père, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Et là, il dresse un autel au nom de le Dieu d'Israël. Un nom pour lui, Dieu pour lui, Dieu pour Israël. Et nous avons tous besoin d'avoir ce péniel dans notre vie pour qu'enfin nous puissions dire ben, « Dieu est mon Dieu ». Ce n'est pas simplement le Dieu de la Bible, ce n'est pas simplement le Dieu des patriarches, mais c'est mon Dieu. Alors oui, on a tous, je pense, vécu un Bethel où il y a eu cette première rencontre, cette première rencontre avec Jésus qui a transformé notre vie. Mais nous avons tous besoin d'un Péniel dans notre vie. Mais pas simplement qu'une fois, plusieurs fois. Parce que même si nous sommes en face à face avec notre appel, au fil des années, notre appel, il peut changer, il peut grandir, se transformer. Et on a besoin d'avoir ce tête-à-tête renouvelé en permanence avec Dieu. On a tous un face-à-face avec notre passé, notre soi-même. Mais on a tous besoin, à maintes reprises, d'avoir un face-à-face avec Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs. Alléluia. Merci pour ton amour, Père éternel. Tu es le Dieu qui veut nous faire du bien. Tu es le Dieu qui veut nous façonner. Alors oui, ce matin, je réclame pour ma vie, mais je réclame pour chacun de nous cette possibilité d'avoir un face-à-face avec toi. Parce que tu es celui qui veut nous transformer. Tu es celui qui a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Et avec ce face-à-face avec toi, nous voulons rentrer dans ton intimité. Nous voulons grandir dans ce que tu as préparé pour chacun de nous. Merci Père, au nom de Jésus.